RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket du mardi sur RMC, à télécharger sur rmc.fr. On se régale, c'est les finales. C'est un spécial final San Antonio, New York, back to 99, messieurs.
Qu'est-ce que tu viens de dire là?
Back to 99.
Je sais pas compris.
C'est pas, tu sais pas?
Je comprends pas ce que tu dis.
Ça veut dire retour en arrière.
Ça veut dire retour en arrière.
Salut Fred.
Bonjour. Écoute très bien quand je te vois.
Félix Gabory qui revient de San Antonio au Edo Casey.
C'est le seul mec qui rentre alors que le final démarre.
Je manquais trois Fred, il fallait que je revienne, monsieur Fred.
Mais c'est vrai. J'étais un peu perdu, c'est vrai.
Et Stephen Brun, oui, vous avez bonjour. Reconnu la voix. Après, c'est plus sympa d'aller à New York quand même. Non
que San Antonio?
Non, que au Casey. Non,
ça va. Raconte-toi un peu l'ambiance de la salle de Casey, parce qu'on dit que c'est une salle très chaude,
Massachusetts. C'est complètement dingue. Complètement dingue.
Mieux que les Spurs.
En vrai, ça se vaut. Non, vraiment, en termes de bruit, ça s'appelle Loud City, c'est pas pour rien. Franchement, le bruit, c'est un bordel. C'est vraiment un énorme bordel.
Quelle est la plus belle salle?
Non, celle des Spurs, quand même.
Ah ouais?
Ouais, je dirais. Bon, après, ça se vaut. Tu sais, toutes les salles de billets, c'est un peu les mêmes choses. Hein. C'est très.
Très bien.
C'est très copié-collé. Mais après, celle de Casey, elle est dans le centre-ville, donc c'est pas mal.
Et les cheerleaders?
Les cheerleaders, j'ai pas trop regardé les cheerleaders. Ouais.
Bonne réponse.
Bah oui, il a commencé à bégayer.
Il s'est pas fait piéger, bravo. Hein. Bravo, Félix. Et la ville, moi, ça m'intéresse. La ville, ça ressemble à quoi au Casey?
Au Casey, c'est plus petit que San Antonio, c'est quasiment deux fois plus petit et c'est bien plus calme. T'as une espèce de, tu vois, un bon vivre là-bas qui fait cette
espèce d'inquiétude.
Une certaine inquiétude, voilà.
C'est un peu de charme ou pas?
Si, centre-ville, il y a Bricktown, donc c'est un truc, c'est que des maisons en briques.
L'herbe est légalisée, là-bas.
Oui, bah, comme
ça. C'est pour ça que c'est très calme.
T'as pédable des gros wins, je sais ça,
Non, mais le petit centre-ville d'OKC, c'est plutôt mignon, c'est plutôt, tu vois, c'est plutôt. Une certaine inquiétude, contrairement à San Antonio, où c'est des fois, c'est un peu dense, un peu le bordel, des fois, San Antonio. Le petit côté latino, tu vois.
Là, par contre, tu vas te frotter aux fans de New York, ça va être royal.
Tu vas faire du micro-trottoir devant le Garden. Fucking next baby.
Franchement, c'est une très belle finale pour ça.
L'affiche est parfaite.
Deux franchises très différentes, deux villes très différentes.
Adam Silver est très très content aussi pour les finales.
Ça va faire péter les audiences.
Alors justement, on va faire un preview de la finale. Voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez, qui est favori, qui va l'emporter, dans quel scénario, quelles sont les clés de cette finale. Ensuite, qui est le meilleur joueur des playoffs jusqu'ici? Voilà, on a un Jalen Brunson qui marche sur l'eau, Wemby évidemment, et vous allez me dire, bah, y a peut-être d'autres, peut-être qu'on parlera de Towns par exemple, enfin bref, ça c'est le deuxième débat, et puis la partie historique, on va refaire la finale de 99 évidemment. Alors moi je vous avoue, cette finale...
T'avais quel âge?
J'étais pas tout jeune. J'étais déjà, j'avais 23 ans, c'est vrai que c'est après, juste après Jordan, on a lâché hein. C'est vrai, hein.
C'est vrai que c'est,
moi, j'avoue,
c'est l'année d'après.
Cette finale, je n'en ai aucune connaissance. Donc vous avez
moi, j'avais vu un petit peu parce que je suis drafté dans la foulée.
Eh oui, toi, c'est ton époque, toi. Regardé, ouais. Toi, t'étais à fond.
Ça sera en 2000.
En 99. Juste après.
En 99, juste après. Ouais. Okay, okay.
Voilà, le quiz, ce sera entre San Antonio et New York. New York, San Antonio.
Ouais, sympa.
Des petits allers-retours comme ça.
Géographique. Il y a des quiz de culture générale.
Il y a très beaucoup de culture générale.
Très beaucoup.
On parle de basket.
Alors là, je pense que c'est le quiz dans lequel on parlera le moins de basket.
Tu cherches un truc à te balancer.
C'est pas vrai. Mais il y a 2-3 dingueries. Tu sais, à chaque fois, je pense comment je vais faire pour faire sortir Fred de Segon. Hein, tu sais, hein, c'est la partie du.
C'est pas très compliqué.
C'est un des gimmicks du podcast maintenant.
Oui, mais tu sais que c'est pas compliqué.
Surtout ce matin, quand il a pris le train Limoges-Paris.
J'ai tenté des petits trucs, on va voir si ça marche. Allez, c'est parti. La finale, c'est le plus important.
Believe it, Knicks fans, for the first time in 27 years, the New York Knicks are going to the NBA Finals.
A new era has dawned. It's Wemby's West. The Spurs are going to the NBA Finals.
It's a fucking Knicks!
The Knicks go to the Finals. It's like Jesus returning. We're smoking on the
bed. It's the Finals!
I don't speak no French, Wemby. I'm a...
You want to send that nigga back to France?
Félix, je t'annonce que tu peux déjà préparer tes sujets sur les fans des New York Knicks, hein, je pense qu'on va bien rigoler. Alors, vous allez me présenter cette finale, qui est favori d'abord pour vous? Parce que moi j'entends beaucoup, beaucoup dire que c'est New York, que c'est San Antonio, je trouve ça un peu présomptueux, personnellement. Toi Steve, tu me dis non, c'est normal.
Moi, sur ce que j'ai vu sur la globalité de la saison, moi, je trouve ça logique que les Spurs soient... je te dis pas qu'ils soient archi-favoris, mais qu'ils soient légèrement favoris face à New York, parce qu'ils ont produit sur la saison régulière dans une conférence bien plus concurrentielle que celle des Knicks, gagner 9 matchs de plus et prendre 62 victoires. Voilà, déjà, ça leur donne un avantage. Alors oui, on parle de saison régulière, la NBA Cup. Cette NBA Cup, on rappelle que Victor revenait de blessure, qu'il sortait du banc, qu'il jouait à peine plus de 25 minutes. Il y a quand même quelques circonstances pour atténuer cette victoire des Knicks. Après, on me dit que les Knicks sont énormes. Oui, 11 victoires consécutives en play-off, mais je pense que cette équipe des Knicks n'a pas affronté une équipe du calibre des Spurs pour se hisser en finale NBA. Que les Spurs, ils ont affronté beaucoup de choses pour la première fois et ils ont réussi beaucoup de choses pour la première fois. Le manque d'expérience, bon, ça, on peut mettre de côté, c'est terminé. Un match 7 à l'extérieur, bon, ça y est, ils ont passé le test. Donc moi, je vois les Spurs légèrement favoris par rapport à New York, Pierrot.
Fred ?
Je n'en ai aucune idée.
T'en as aucune
idée ? Je n'en ai aucune idée, tout simplement parce que d'un côté, effectivement, on a les Spurs qui ont joué des matchs extrêmement compliqués contre des équipes extrêmement compliquées. C'était fort, c'était dense, c'était intense, c'était physique. Je me suis rendu compte quand même que parfois, Victor était fatigué. On l'a vu sur le match 5, notamment, où il était vraiment complètement à plat. Est-ce que l'enchaînement de ces 7 matchs contre OKC ne l'aura pas fatigué ? Ce sera difficile à déterminer aussi, mais c'est une donnée à prendre en compte. Et de l'autre côté, je ne sais pas évaluer la performance de New York, en fait. Je ne sais pas, parce que c'est fantastique, c'est merveilleux, mais est-ce que l'adversité était suffisante pour qu'on puisse avoir une opinion dessus ?
Okay.
Je ne sais pas trop.
Mais quand tu massacres des adversaires, même si tu as un doute sur le niveau des adversaires,
Tu les as massacrés surtout sur, les matchs 4. Hein. Dans l'absolu, les matchs sont plutôt joués et jouables. Ouais, rappelle-toi le match 1, notamment contre les Cavs, t'es à moins 22 à un moment.
Oui, mais en gros, dès qu'ils ont pris l'ascendant sur le score de la série, après, ça a été un ouragan.
Je suis complètement d'accord.
Et donc, en fait, même si je veux bien que les adversaires soient plus faibles, c'est quand même assez rare dans une compétition de ce niveau-là, même hors NBA,
je n'arrive pas
de voir une équipe aussi dominante, même face à des adversaires que tu peux estimer plus faibles.
J'entends ce que tu dis, sauf qu'ils n'ont pas affronter une défense aussi
Regarde,
dure.
Arsenal
aussi...
en Ligue des Champions, ils ont eu un parcours du type de New York avec des équipes moins fortes.
Ils ont perdu.
Ils ont perdu à la fin, mais ils sont passés ric-rac à chaque fois.
Oui,
ils n'ont pas éclaté le Sporting, pas éclaté
juste, est-ce que tu te rends compte quand même que New York, offensivement, c'est juste une machine à tuer du côté de l'Est. Ça a explosé les scores, tout le monde participe.
Contre les défenses qui ne sont pas celles des Spurs.
C'est pour ça que j'ai du mal à évaluer, parce qu'ils vont se retrouver contre une défense qui a montré des choses, qui a été capable d'arrêter quand même la meilleure équipe de l'Ouest, même s'il manquait des joueurs, pas revenir dessus, mais malgré tout, ils ont été capables de les arrêter. Je suis désolé, j'ai du mal à l'évaluer. Je pense que d'un côté, t'as une équipe offensivement, si elle arrive à prendre feu, qui va être extraordinaire, c'est New York, et de l'autre côté, est-ce que cette équipe des Spurs aura la capacité de défendre aussi bien qu'ils l'ont fait jusque-là ? Et dans ce cas-là, difficile de juger qui va s'imposer.
Félix, qui est favori pour toi ?
C'est très dur. Et la semaine dernière, j'avais dit 55. Je crois que j'avais dit 55-45 Spurs. Possible. Et là, non, je suis pas loin de l'avis de Fred.
La semaine dernière, tu savais déjà qu'ils étaient en finale, les Spurs.
Non, on s'était projeté sur si c'est San Antonio, si c'est OKC. On avait fait les deux scénarios. Okay. Et c'est très dur de pronostiquer. Non, mais c'est vrai qu'en fait, on peut pas savoir vraiment ce vrai niveau des Knicks. Est-ce que vraiment ils ont bénéficié d'une conférence test très faible, ou est-ce qu'il y a pas un petit peu, et c'est plutôt mon avis, c'est eux qui se sont rendus ce parcours-là très facile aussi, parce que ils sont.
Joel Embiid les a bien aidés quand même.
Ouais, mais tu vois, avant chaque tour de playoff, notamment contre Philadelphie et après contre Cleveland, les favoris c'était à chaque fois Philadelphie et Cleveland. Ils n'ont jamais été favoris de leur match-up New York, et au final, à chaque fois, ils se sont rendus le chemin hyper facile en explosant vraiment leurs adversaires. Et donc, surtout, on aurait pu se poser la question si New York passait un peu ric-rac contre Cleveland, contre Philadelphie, qui ne sont pas des équipes du niveau de OKC ou de San Antonio. Mais là, ils ne sont pas passés ric-rac, c'était vraiment un rouleau compresseur, ils les humiliaient. Donc c'est eux qui se rendaient faciles ces tours-là.
Je te rejoins qu'ils ont fait des matchs exceptionnels d'adresse et qu'ils ont détruit l'adversité et qu'ils ont peut-être empêché l'adversité d'avoir un moment de rébellion. Mais le problème, c'est que moi, j'ai vu Cleveland tellement friable dans les attitudes et lâcher les matchs, je ne vois pas San Antonio, encore plus en finale NBA, abdiquer aussi facilement qu'a fait Cleveland. Cleveland, au bout d'un moment, ils ont rendu les armes.
Ils ont donné le match 1,
ils ont abandonné la série.
Le match 1 les a tués.
Oui.
Le match 1 les a tués. Oui, 22 et à l'extérieur.
San Antonio, le match 1, ce qui est fou, c'est que même avec la révolte de New York et même en n'étant pas hyper fort mentalement, ils doivent le gagner quand même. C'est ça qui est fou.
Bien sûr, mais évidemment, mais c'est pour ça que ça les a tués.
Ça veut dire qu'ils sont faibles.
Très, très faibles.
Spurs, pour moi, ils ont pas cette faiblesse là. Ils ont pas cette faiblesse là dans la tête. Ils lâchent pas les matchs. Alors il peut y avoir de la fatigue, mais moi en fait, tous ces gamins de San Antonio, ils débarquent en fait sans peur et sans reproche. En fait, les Dylan Harper sur le match 7, il va te mettre un step back à 3 points. Ouais, il a 20 ans.
Ouais, non, c'est dingue.
Il découvre la NBA. Moi, il y a pas un mec des Spurs qui passe à côté sur le match 7 et je les vois pas. Je te dis pas, Pierrot, qu'il y a un wagon d'écart, mais je pense que San Antonio
trop fort, trop dur à prendre.
Et en fait, ils ont le meilleur joueur de la série pour moi. On va en parler plus tard, mais je crois que Victor est le meilleur joueur de deux effectifs en fait.
Alors après,
dans les victoires, oui.
Est-ce qu'il est possible même pour une équipe comme les Spurs de défendre sur Brunson qui est quand même en feu
ils
là,
ont, Shea, ils l'ont fait sur Shea.
Ouais. Ils ont de la viande, oui. On a vu qu'il y a plein de joueurs qui sont capables de faire. Cassel, c'est incroyable. Vassell, moi, j'ai trouvé très bon aussi par moment parce qu'en plus, il est un petit peu plus long.
Même Champagny,
ouais, en fait, ils ont vraiment la capacité normalement de le faire.
Et même Dylan Harper aussi.
En fait, vraiment, moi, je ne sais pas quoi penser de cette équipe de New York, vraiment, une nouvelle fois. Mais je pense que d'un côté, on a quand même une équipe qui est capable de s'imposer physiquement dans la densité et sur la défense. Donc, je pense que San Antonio est légèrement favori, mais vraiment très,
très,
très
léger, quoi.
Parce que Jalen Brunson, j'ose espérer qu'il a regardé San Antonio, parce que ce qu'a pris Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Brunson va prendre la même chose.
Ah bah oui.
Stephen Castle est monumental. Alors la fatigue, oui, ça reste quand même un jeune joueur. Je pense qu'il a du jus, Stephen Castle, putain de merde. Mm. Il a une détente exceptionnelle. Et Jalen Brunson, il a un peu les mêmes qualités que Shai, même s'il prend plus de tirs à 3 points que Shai Gilgeous-Alexander, mais c'est un mec qui est dans le périmètre. Et quand t'es dans le périmètre, quand tu vas prendre tes tirs, tu vas voir de l'ombre. Victor Wembanyama va être là à le chasser.
Surtout, j'imagine les petits coups d'épaule de Brunson. Oui. Il va pas reculer, Brunson.
Non, Castle, il va pas. Et Victor va pouvoir se permettre de d'être là en deuxième rideau, faire de l'ombre. Et Jalen Brunson, il a intérêt à être près du texte. Il a intérêt aussi à être prêt à lâcher les ballons parce que je pense qu'il va peut-être se faire trapper. Ils vont venir doubler sur lui pour lui faire lâcher le ballon et dire allez-y, Jalen Brunson, on va essayer de le limiter. Montrez-nous les autres joueurs. Après, tu as des joueurs des Knicks qui font des séries de playoffs de trop niveau.
Quel va être le rôle de Kat justement dans ce match?
C'est primordial. C'est une des clés pour moi de la série, notamment de comment il va réussir à limiter, essayer de limiter l'impact de Victor Wembanyama en défense et après en attaque. Est-ce qu'on va avoir le Karl Anthony Towns qu'on voit depuis deux tours et demi, donc qui a complètement changé le jeu de New York? On en a déjà beaucoup parlé dans son rôle un peu à la Jokic, Draymond Green, qui est maintenant un peu la plaque tournante de l'attaque des Knicks. Est-ce que vraiment il va pouvoir exister en attaque? Parce que c'est vrai que t'as quand même un sacré défenseur sur le paletot avec Victor Wembanyama.
Si tu as 3 points, parce que tu es obligé de le suivre. Déjà, il faut être sûr que Victor va défendre sur Karl Anthony Towns. Et ça, moi, je suis pas certain.
Peut-être que c'est Anunoby qui va défendre sur Victor.
Et l'inverse, je suis pas sûr que Victor soit en défense directe sur Karl Anthony Towns.
Sur des séquences, forcément.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es obligé de suivre à 3 points, de t'écarter de la zone et donc de moins aider. Donc ça, ça peut être intéressant quand même aussi. Ouais. Même s'il touche pas de ballon, il peut écarter le jeu et laisser de l'espace dans la peinture.
4 a une grosse clé, je pense, du succès de New York, parce que c'est la première fois que Victor va devoir éventuellement défendre sur un pivot aussi adroit, parce que je pense que Karl Anthony Towns est peut-être le pivot le plus adroit.
Lui le dit en tout cas.
et puis il le montre aussi en termes de chiffres, en termes d'adresse. Victor va devoir, s'il défend sur Towns, sortir très haut, parce que sinon Towns bombarde et ça va désengorger un peu la raquette et permettre
Le fait défendre Victor, tu vas dire que je suis complètement fou. Josh Hart, évidemment.
Oui, évidemment.
Mais le problème,
tu peux flotter.
Mais le problème, c'est que t'envoies qui sur Towns? Malheureusement, les Spurs sont un peu courts à l'intérieur, donc t'as pas trop de viande à envoyer sur Towns.
C'est une vraie problématique, mais ça te permet d'avoir toujours quelqu'un dans la peinture pour protéger toutes les pénétrations et les percussions de Brunson, par exemple, tu vois.
Il y a personne d'autre que Victor qui peut défendre
à l'extérieur. Il y en a plein, mais à l'intérieur.
Keldon Johnson, mais Champagny ou Harrison Barnes, s'il prend plus de minutes, ils peuvent aller au large. Et si jamais 41 se rapproche, si Victor il est sur Josh Hart,
tu peux repicher.
Victor il va venir doubler. Et s'il y a une skip pass pour Josh Hart, tu vas prier qu'il fasse pas comme contre Cleveland et qu'il mette pas 8 tirs à 3 points.
J'ai très bien compris. Non mais c'est bien parce que là j'ai compris. Parfois je suis largué. Hein.
C'est pas très compliqué.
Dans les phases tactiques c'est exactement ça, Fred. Là c'est pas très compliqué.
Et puis quid de Mitchell Robinson aussi, il s'est cassé le doigt je crois.
Il doit être là normalement.
Évidemment qu'il va être là, c'est le petit doigt.
Oui.
Et il joue déjà avec des moufles.
C'est ça que j'allais dire, ça va peut-être redresser son tir.
J'exagère un peu parce qu'effectivement, mais par contre son impact, son physique, sa dureté, c'est hyper important.
Allez chatouiller Victor Orboff. Alors déjà qu'avec 5 doigts en bonne santé, il a 30% lancé franc. Oui.
Mais imagine, il est meilleur.
Il a raison, Pierrot. Imagine, ça reste son shoot et ça devient un peu shooter d'élite.
C'est vrai qu'il y en a, c'est
un traumatisme, lui, quand il est sur la ligne.
Tu
entends le public à moitié, dès qu'il touche le cercle, les gens sont contents. Ouais, allez, on continue.
Mais il va être important, Robinson, pour apporter un peu de la viande contre Victor.
Il va être dur, c'est important.
Non, mais c'est vrai que c'est fou de te dire que des mecs font carrière avec si peu d'adresse, mais bah, évidemment, il y a des raisons.
Parce qu'il apporte d'autres choses.
Il y a autre chose, évidemment. Mais c'est vrai que c'est fou parce que là, quand t'es gamin, quand tu commences un sport, c'est la base. Tu essayes de mettre des paniers, c'est ça qui te fait kiffer.
Normalement, oui.
Hein, on est d'accord.
Ah, puis c'est dingue aussi que même avec du travail, parce qu'on suppose qu'il travaille quand même, ce garçon-là, il n'est pas arrivé. C'est juste vraiment, genre, il n'y arrive pas.
Je suis pas sûr qu'il travaille beaucoup sa technique près du cercle, par exemple, parce qu'il n'a pas besoin de ça. En fait, je pense qu'en NBA, vraiment, quand t'es un role player, on travaille sur tes forces.
Après, il doit s'envoyer des séries de
lancers. Mais ce que je veux dire, c'est sur des techniques de panier, etc.
On va jamais lui demander de post-up à Mitch Robinson. On voit des ballons en l'air, mais des dingues, pas de robots.
Je sens qu'il a des limites physiques. Juste son bras, sa main ne répondent pas correctement.
T'as l'impression que quand il est sur la ligne des lancers, il file la télécommande à quelqu'un en tribune, il contrôle un peu le. Il y a un joystick qui contrôle le
lancer franc. Les mecs, quand même, tu te rappelles, ils prenaient une décharge chaque fois qu'ils faisaient.
Qui on a oublié dans cette finale?
Michael Bridges, peut-être.
Michael Bridges.
Anunoby.
Anunoby, oui. Anunoby, Michael Bridges.
Anunoby.
Chamet, qui peut être un facteur X aussi, hein. Ça peut être intéressant.
Alors moi, je veux bien l'André Chamet, mais il a fait 91% à 3 points sur la finale.
Non, mais il ne fera pas.
S'il me refait ça en finale à NBA,
Oui, mais je suis d'accord, mais ça veut dire que c'est une vraie menace. C'est-à-dire que tu changes un petit peu ta façon de défendre. T'aides un petit peu moins, t'es obligé d'être sur lui. Ça peut être un facteur important.
Après, ils ont du monde, hein. Alvarado peut jouer encore des minutes et voler un ou deux ballons pénibles. Ils ont
une belle profondeur. McBride, qui est toujours dangereux.
J'étais assez d'accord, c'est Rick Pitino qui a dit ça, donc entraîneur emblématique des Knicks, qui disait avant le début des finales de conf, sur les 4 dernières équipes qui restaient, que c'était les Knicks qui avaient les meilleurs 9 ou 10 joueurs. Pas forcément les 3 meilleurs joueurs ou le meilleur 5 majeur.
Depuis que Mike Brown les utilise.
Oui,
mais en fait, ils ont vraiment une profondeur assez dingue. Et je trouve que c'est aussi une des clés de.
Quand ils sont en combat.
Oui, après, vu qu'il manquait Jimmy Mitchell et Jalen Williams, ils avaient un peu moins de profondeur. Et je pense que c'est peut-être une clé, c'est que justement, San Antonio, ils n'ont pas énormément de profondeur. Tu arrives rapidement.
T'as vu Cornette, les comptes qu'il peut mettre.
Ouais, non, mais tu vois, après Cornette.
Est-ce que Diawara va avoir un rôle qui va jouer Diawara.
Oui, un rôle d'encouragement, de bouteille de cristalline.
De New York.
Le match est fini à 20 secondes.
Il n'a pas joué ?
Pas vraiment le Biombo, parce que le Biombo, je pense qu'il a un vrai impact par le discours. Je suis sûr que Mohamed Diarra, il prend Jalen Brunson.
Franchement, j'adorerais voir cette image quand même.
Rappelle l'image où Mathieu 7, il fait un câlin. Je ne suis pas sûr que Jalen Brunson vienne faire câlin à Mohamed Diawara pour lui demander ce qu'il doit faire.
C'est fou d'ailleurs ce rôle de Biombo là.
Je suis très surpris.
C'est un coach, quoi.
Mais il l'écoute vraiment. Enfin, ce que j'aime, c'est vraiment, il boit ses paroles. Ouais. C'est incroyable.
Parce qu'il parle français, donc il doit être content.
Et Harrison Barnes, d'ailleurs, un peu ce rôle-là aussi. On a eu plein de séquences où. Harrison Barnes joue un peu plus, mais il y a plein de séquences où il vient, il donne des conseils à Victor. Parce que il a tellement d'expérience des playoffs aussi, Harrison Barnes, que voilà, ça aide dans cette équipe-là.
Parce que t'as besoin, parce que c'est une équipe jeune, et t'as besoin aussi de garçons qui viennent calmer, parce qu'il y en a un qui est. Parfois, qui est pas loin de vriller. Stéphane Cassel, il monte très vite dans les tours. Et parfois, il est pas loin de tout arracher.
Et Dylan Harper, le QI de Dylan Harper, j'ai l'impression que ça fait déjà 10 ans qu'il l'a NBA. Quand il vient, il se jette sur lui pour pas qu'il se pète un
peu.
Vraiment, il se jette, il se met à son cou. C'était très drôle.
Mais c'est vrai que cette séquence, tu sens que ça a failli basculer.
Oui,
très bon réflexe. C'est Dylan Harper
qui fait ça.
Très bon réflexe.
Un peu comme au foot, là, qui vient, mais je pense qu'il y avait un peu de sueur.
Mais il a capté quand tu étais prêt à se relever.
Je pense qu'il le connaît.
C'est une belle faute de Caruso.
Ouais, la faute elle est dégueulasse quand même. Hein.
Il reste appuyé un peu trop longtemps sur le bras.
Il y a eu la même chose au match 3 ou 4 à San Antonio où c'est un agent de la sécu des Spurs qui retient Paris Castle aussi sur une faute de Caruso. En fait, tu sens que Castle il a l'air très froid, très clean comme ça, mais des fois les filles peuvent un peu se toucher.
Attention, je pense qu'à New York, au Madison, ils vont en jouer de ça, non ?
Bah ouais.
Ils vont le chercher, mais bien sûr.
Il y a Timothy Chalamet qui va être Stephen Castle.
Ce qui est drôle, c'est que t'as l'impression que vraiment à San Antonio, tout le monde, de Dylan Harper, des joueurs jusqu'au mec de la sécu, tout le monde sait que Castle peut un peu péter un plomb, donc tout le monde est prêt à sauter dessus.
Même dans le jeu, des fois, il pète un plomb à faire 1 contre 3, 1 contre 4.
Bien sûr.
Allez, on passe au deuxième débat. Qui est le plus fort jusqu'ici dans ces playoffs?